Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au programme du pédalo ce soir, une commission mixte paritaire se réunit demain pour discuter du projet de loi urgence agricole. Un projet de loi qui fait débat et qui passe à côté des enjeux essentiels selon la Confédération paysanne. On en parle avec Benoît Sénéchal, éleveur dans le Maine-et-Loire et membre du syndicat. Voilà, vous savez tout de ce pédalo du mercredi 15 juillet, alors ajustez votre gilet de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
3 mois après son vote en première lecture par l'Assemblée, le projet de loi urgence agricole est de retour dans l'actualité. Une commission mixte paritaire doit se réunir demain. Censée répondre aux besoins majeurs du monde agricole, il est vivement critiqué par différentes structures. C'est le cas par exemple de la Confédération paysanne qui avait appelé les députés à voter contre, c'était en juin dernier. Alors pour mieux comprendre les raisons de cette opposition, on accueille Benoît Sénéchal, éleveur et membre de la Confédération paysanne 49. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors on va analyser ensemble les contours de ce projet de loi, mais avant j'aimerais qu'on comprenne mieux pourquoi est-ce que cette loi arrive maintenant, à quelles grandes urgences liées à l'agriculture est-ce qu'elle prétend répondre ?
C'est la grande question, parce qu'en fait la loi d'urgence agricole, ça fait un petit moment qu'elle est dans les dossiers suite aux manifestations agricoles qu'il y a eu les deux hivers derniers. Et en fait quand on regarde un petit peu le contenu de la loi d'urgence, on voit qu'elle ne répond pas aux urgences actuelles de l'agriculture. Les manifestations étaient liées notamment à la dérégulation du marché agricole et puis du revenu des paysannes et des paysans. Et là aujourd'hui en fait on voit que sur ce texte-là il y a très peu de choses, au mieux des expérimentations pour voir sur les prix un petit peu de ce qu'on peut faire, mais rien qui répond à l'urgence en fait agricole.
Alors la question des revenus, on va y revenir justement, sans mauvais jeu de mots. Alors, en introduction, je parlais de la citation d'Antoine Baron, qui est de la Confédération paysanne de Loire-Atlantique, sur les enjeux essentiels du monde agricole auxquels cette loi ne répondrait pas. Mais alors, ça serait quoi aujourd'hui, pour toi, les vrais enjeux auxquels il faudrait répondre, hormis cette question du revenu ?
Hormis cette question du revenu, parce qu'elle est quand même essentielle, hormis cette question du revenu, elle va être sur l'installation, en fait, sur l'installation de paysannes et de paysans nombreux dans nos campagnes déjà, pour pouvoir parler de souveraineté alimentaire de manière véritable, et que cet enjeu de souveraineté alimentaire en fait soit pas un mot qui soit utilisé n'importe comment par les instances agricoles et par le ministère. Voilà, donc ça c'est un des grands enjeux en fait. Et puis aujourd'hui on a l'enjeu en fait climatique, environnemental, qui concerne différents points. Mais là on voit en ce moment par exemple la canicule qui était prévue, hein, donc rien de nouveau, mais cette loi d'urgence en fait elle apporte pas de réponse ou en tout cas de mise en place d'une politique structurelle en fait pour éviter ces dérives.
Alors l'un des principaux points de controverse de ce texte, il se situe autour de la question de l'eau. Il prévoit de développer les stockages à l'image de structures comme les mégabassines. Ce qui est dénoncé, c'est un accaparement de l'eau par finalement quelques poignées d'agriculteurs.
C'est ça, tout à fait. Le problème de l'eau, c'est pas tant l'irrigation. L'irrigation, ça représente 7% des surfaces agricoles en France. Hein. Donc c'est pas, on en entend beaucoup parler, mais c'est pas ça qui représente le entre guillemets le plus gros problème. L'usage de l'eau aujourd'hui, ça va être sur le partage en fait. Comment on partage l'eau de manière équitable dans un contexte où on est sur des tensions en fait, des tensions des tensions de quantité d'eau en fait et de qualité d'eau. Le vrai enjeu, c'est ça, c'est le partage équitable de l'eau, quoi.
Parce que c'est souvent vendu justement comme un moyen de récupérer l'eau facilement. Qu'est-ce qui fait que tout le monde ne profite pas vraiment de ce stockage d'eau ?
Déjà, il y a une question qui est une question de, on va dire, des zones en fait où on est situé. Voilà, c'est ce que je disais. Hein, il y a que 7% des cultures qui sont irriguées. Aujourd'hui, On a besoin d'eau. De toute manière, pour faire de l'alimentation, il y a besoin d'eau. Aujourd'hui, il faut savoir que 40% de l'eau consommée en agriculture, à peu près, elle est utilisée pour le maïs, qui est une production qui, en soi, en bonne partie, part pour de l'export ou pour de l'agro-industrie. L'objectif, c'est d'arriver vraiment à avoir une répartition équitable de l'eau. Le problème de la loi d'urgence agricole aujourd'hui, c'est qu'en fait, on essaye de simplifier cette gouvernance de l'eau. On veut diminuer le nombre d'acteurs autour de la table pour réfléchir à comment on va l'utiliser, pour qui et comment on va la protéger, surtout.
Alors, on est en train de vivre, on le disait tout à l'heure, une grosse période de sécheresse. La question de l'eau, elle est donc majeure. Qu'est-ce qu'on pourrait concrètement mettre en place pour répondre à ce problème, au-delà des solutions proposées dans cette loi ?
Eh bien, par exemple, dans la loi, on n'entend pas parler du stockage de l'eau dans les sols, en fait. Aujourd'hui, là, c'est assez impressionnant. Un des sénateurs, Duplon, qui est connu pour une autre loi, mais bon, qui fait le parallèle avec la loi d'urgence agricole, nous parle d'enlever les zones humides, en fait, pour pouvoir créer des zones de stockage d'eau.
Sachant qu'en soi, la zone humide est une zone de stockage d'eau naturelle.
C'est ça. En fait, la zone humide, c'est une zone de stockage d'eau naturelle. L'objectif, c'est de maintenir le maximum d'eau dans le sol, en fait. Les cultures qui souffrent de la sécheresse, en grosso modo, je vais faire très simple, en fait, c'est des plantes qui ont pu les racines dans l'eau, quoi. Si on arrive à maintenir la captation de l'eau par le sol, en fait, de par sa quantité de matière organique, notamment sa proportion de matière organique dans les sols, on va maintenir, on va dire, une humidité beaucoup plus importante dans le sol, et c'est là où on va garder le maximum d'eau. On parle beaucoup des excès d'eau d'hiver et du problème de stockage de l'eau, qu'il faut garder de l'eau en hiver, etc. Quand on connaît un peu le grand cycle de l'eau, en fait, ces excès d'eau en hiver, normalement, ils sont là pour rétablir le niveau des nappes et en même temps réhumidifier en fait la couche arable en fait qui va servir à la pousse des plantes. Et une des priorités, en fait, c'est de préserver les sols. C'est un des fondements de l'agriculture biologique à la base, qui a plus de 30 ans. C'est quelque chose qui est très important. La quantité de matière organique dans les sols, c'est-à-dire restituer une partie de ce qu'on produit au sol, en fait, pour justement avoir cette quantité d'eau dans le sol, quoi.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on a tendance, à l'image de cette loi, de ce projet de loi, à préférer construire ces zones de stockage plutôt que de se référer aux nappes phréatiques?
On répond à une demande de l'agro-industriel, en fait, où on veut tout maîtriser. À l'image d'un bâtiment agro-industriel, d'une culture industrielle, en fait, ce qu'on veut, c'est avoir l'eau à côté de là où on a décidé de produire. En fait, c'est-à-dire qu'on ne veut pas utiliser... entre guillemets, la nature. On ne veut pas utiliser la nature et voir ce qu'on peut produire à un endroit précis, qu'on soit sur des coteaux, qu'on soit sur des zones humides, qu'on soit sur des... Il y a énormément de paysages agricoles différents en France avec des capacités différentes de production possible. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir produire ce qu'on veut, où on veut, et donc modifier l'environnement à l'endroit précis où on veut le produire. Le stockage d'eau, ça permet ça. C'est-à-dire de dire, en gros... Si on veut faire une zone à maïs en France, on va essayer de mettre la plupart des bassines à cet endroit-là pour pouvoir produire le maximum de maïs à cet endroit-là. Et quand il n'y aura plus rien pour le produire parce que le sol sera complètement mort, on ira ailleurs et on déplacera les bassines. Mais il faudra pouvoir les remplir, ces bassines, et ça sera un gros problème.
Alors, parmi les autres grands points de controverse, il y a aussi la réutilisation de certains pesticides. C'est le cas de l'acétamipride ou du flupyradifurone, respectivement interdits en France en 2018 et en 2019. Pour la Confédération paysanne, on est vraiment sur un gros retour en arrière ?
On est sur en fait, la loi d'urgence agricole, sur beaucoup de points au niveau protection de l'environnement, protection de la santé, on fait un pas de 20 ans en arrière à peu près, 30 ans peut-être. Ces pesticides-là, ils sont dangereux pour la santé. Si on les interdit, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que pour protéger en fait les agriculteurs qui produisent des noisettes, il faut remettre notamment l'acétamipride. En vrai, il y a une vraie demande de l'industrie betteravière pour remettre l'acétamipride. Cette industrie et ses agriculteurs et ses agricultrices qui produisent des betteraves, il faut soutenir leurs revenus, il faut respecter leur travail. Cependant, aujourd'hui, le problème du revenu de ces producteurs et de ces productrices-là, c'est pas l'acétamipride, c'est le prix qu'on qu'on met aux produits en fait betteraviers notamment. Donc là, cet amipride, c'est vraiment un faux problème. C'est un faux problème. On répond là à une volonté économique des firmes agro-industrielles, des firmes phytopharmaceutiques, etc.
Alors, les effets néfastes sont pourtant connus et on sait que les paysans et paysannes sont particulièrement exposés au cancer précoce. Comment est-ce qu'on en arrive à souhaiter cette réintroduction avec la bénédiction de syndicats agricoles comme la FNSEA ? C'est uniquement pour cette question d'agro-industrie ?
Eh bien oui, en fait, les oligarques agricoles, l'agro-industrie, en fait, c'est quelques personnes qui veulent concentrer la richesse. Donc en fait, en remettant des produits qui sont dits dangereux, en ne mettant pas de moyens pour essayer de trouver des solutions alternatives pour protéger la santé des utilisateurs en premier lieu et puis de la population, de pas vouloir mettre les moyens pour trouver autre chose, on est clairement, on va dire, on accélère devant le mur. On sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter parce que ça marche plus. Là, on voit une explosion en fait des cas de maladies qui sont liés à l'utilisation de ces produits. On n'arrête pas. Tant que c'est rentable, on n'arrête pas. C'est la même question qui peut se poser sur les énergies fossiles aujourd'hui, où on connaît des solutions alternatives. Et en fait, tant qu'on en a et tant qu'on peut faire de l'argent dessus, on continue quoi.
Cette réintroduction, elle répond aussi à des logiques de nécessité d'être rentable dans un monde où c'est de plus en plus difficile pour les paysans et paysannes de l'être. Est-ce qu'on peut dire que cette loi, comme les récentes lois agricoles, elle répond à des enjeux à court terme, mais elle va totalement à l'encontre du long terme ?
Bah, de toute manière, cette loi, c'est ce que je viens de dire. On accélère devant le mur, quoi. C'est-à-dire qu'on appuie sur l'accélérateur tout en sachant la limite du système. Là, c'est pour les pesticides. On voit l'explosion de ces maladies. Tout le corps médical aujourd'hui est vent debout contre la réintroduction de ces produits, qui est déjà encore en phase avec des produits qui n'ont même pas été remis en question, mais qui sont importants. Excusez-moi, je perds un peu les mots.
Pas de souci.
L'utilisation de ces produits aujourd'hui, en fait, on connaît des méthodes pour faire autrement. Le problème du revenu, c'est un faux problème par rapport à l'utilisation de ces produits. Aujourd'hui, il suffirait d'avoir des choix politiques clairs à long terme, donc voilà, pas à court terme, à long terme pour restructurer toutes ces filières alimentaires, en fait.
Mais les restructurer, ça peut prendre du temps ou est-ce qu'on peut réussir quand même à répondre aux enjeux de court terme avec une vision beaucoup plus sur long terme ? Comment on pourrait faire ?
Alors, comment on peut faire ? Premièrement, c'est un choix politique. Clairement, loi d'urgence agricole, c'est ce que je disais au départ. On parle très peu du revenu des agriculteurs. On parle des tunnels de prix, des prix planchers, etc. Mais de manière expérimentale, comme c'est écrit sur le projet de loi. Aujourd'hui, en fait, si on commence déjà à dire aux producteurs, aux productrices, on va faire en sorte que vous ayez un revenu qui vous permette de travailler correctement et on va mettre en place une politique où on va mettre en place en fait ce qu'on sait déjà faire sur de l'agronomie, sur de l'élevage, sur de la technique en fait agricole pour se pallier à ces produits, et ben en fait on va arriver assez rapidement à essayer de modifier les choses. Ce qui pose question aujourd'hui malgré tout, c'est que ce qui met en colère aussi, notamment la Confédération Paysanne et tous les adhérentes et les adhérentes de la Confédération Paysanne, mais pas que, c'est que ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut changer ce système, que le système il est à bout, qu'on va aller en avant des crises. C'est ce qu'on voit, la canicule, les inondations, la sécheresse. Et aujourd'hui, au bout de 30 ans, on en est là parce qu'on n'a jamais voulu changer cette politique. Donc aujourd'hui, même les producteurs, les productrices qui ont essayé d'avoir des systèmes résilients, des systèmes un petit peu qui protégeaient en fait leur outil de travail, ils subissent ça. Et aujourd'hui, la colère, elle vient vraiment de là. C'est-à-dire il n'y a pas eu... Ce qu'on dit depuis 30 ans, ça n'a pas été écouté. Et aujourd'hui, on est face au mur, quoi.
Alors, pour revenir sur la question des pesticides, on a beaucoup parlé de l'impact sur la santé des paysans et des paysannes. Mais ça concerne aussi notre santé à toutes et tous, si on n'est pas dans l'agriculture.
Tout à fait. Aujourd'hui, c'est ce que je disais, hein, le corps médical commence à être de plus en plus, de prendre de plus en plus la parole par rapport à ces problèmes-là, à être un petit peu, on va dire, libéré un petit peu de l'impact des entreprises pharmaceutiques. Et en fait, on peut prendre par exemple un des problèmes de la loi d'urgence agricole, on parle des zones de captage. Aujourd'hui, les zones de captage, elles sont protégées de l'utilisation des pesticides, etc. Et ça, c'est pour l'alimentation en eau potable de la population. Ces zones de captage, on les remet en cause aujourd'hui. Sur le principe de la loi d'urgence, de voir, ben, finalement, peut-être cette zone de captage-là, ben, on pourra peut-être quand même recontinuer à remettre des produits dessus, etc. C'est celle-là le recul, en fait, qu'il est. Si tant est qu'en plus, on a une qualité d'eau pour les consommateurs, qui est... aujourd'hui, on a des limites par produit dans l'eau. C'est-à-dire que quand on fait une analyse d'eau, potable pour la population, et ben en fait on va dire bah, telle molécule elle a pas dépassé le seuil de 100 microgrammes par litre, telle molécule. Donc on arrive à dire bah, en fait l'eau elle est potable parce qu'elle dépasse pas tous ces seuils. En gros, admettons, on va dire il y a 10 seuils à 100, on va retrouver 90 à tous ces seuils là, on va dire bah, l'eau elle est potable. Sauf que le cocktail de tous ces problèmes là, enfin de tous ces produits là, si on les cumule, et ben en fait on dépasse largement une quantité de pesticides acceptable. Voilà, par exemple, ça c'est un exemple.
On continue de parler du projet de loi urgence agricole, mais avant on fait une pause musicale. On écoute Angie Mile, c'est un auteur, compositeur, interprète folk américain, il vient de Boston. Son titre s'appelle You're Free to Go et c'est sorti en mars dernier dans son album éponyme. A tout de suite dans le pédalo.
There's something like a new being growing on me. Through the summer, through the morning, through your body. Did you wake me? Did you heal me? Should you call me when you need me? I'll deliver. If that's enough, that's enough, that's enough, that's enough. Why did I begin, I begin to cry? To go.
C'était You're Free to Go d'Angie Mile. Vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute du Pédalo. Et aujourd'hui, on est avec Benoît Sénéchal, éleveur et membre de la Confédération Paysanne, pour parler du projet de loi Urgence Agricole. Alors, l'un des autres contours de ce projet de loi, c'est celui de favoriser l'agrandissement des élevages. Je dis favoriser, mais c'est presque inciter les exploitants à s'élargir. C'est ce qui est contenu dans l'article 17. Concrètement, que dit le projet de loi à ce propos ?
Bon, en fait, le projet de loi, en fait, il dit qu'il faut augmenter les seuils, en fait, les élevages, selon leur taille, en fait, ils sont soumis, en fait, à des seuils d'autorisation environnementaux. Hein. Et là, en fait, ce projet de loi, il dit, on va augmenter les seuils d'élevage, en fait, pour demander les autorisations, notamment soumis à autorisation. Ce qu'on appelle soumis à autorisation, en fait, c'est qu'il y a une étude qui est assez importante, qui est effectivement beaucoup de paperasse, pour prouver que l'élevage ne va pas avoir un impact négatif sur l'environnement. Et là, en fait, cette loi, en fait, elle vise à augmenter la taille des élevages à partir desquels il va falloir demander cette autorisation, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, très très peu d'élevages sont concernés par cette demande. Donc là, tout ce qu'on voit, nous, c'est, encore une fois, c'est de l'agro-business, hein, c'est-à-dire qu'on veut essayer de concentrer, d'intensifier les élevages à certains endroits pour pouvoir, on va dire, produire de manière complètement déconnectée de l'environnement, avec tout l'impact que ça peut avoir derrière. En fait.
Et le problème de ces élargissements, c'est quoi ? C'est avant tout écologique ou ça va plus loin ?
Alors, il y a plusieurs problèmes. Hein. L'augmentation des élevages, donc ça va être un impact sur l'environnement qui est beaucoup plus fort. Il faut savoir qu'en fait, quand on fait un élevage avec une grande concentration d'animaux, on va augmenter le risque de maladies animales. On peut aussi augmenter le risque de zoonoses, des maladies animales qui se transmettent à l'homme. Mais aussi, on va augmenter les quantités d'éjections qu'il va falloir quand même épandre en fait sur ces zones-là. Et plus... On va dire, admettons, on va sur un élevage, on va alimenter, je sais pas, en volaille, une ville comme Angers. Faut savoir que toutes les déjections qui permettent des animaux, en fait, qui vont permettre de produire cette viande, qui vont alimenter une grande population, elles vont être toutes les déjections, en fait, elles vont être répandues autour de l'élevage, en fait. Et donc, en fait, on va créer une pollution, en fait, diffuse importante à l'endroit de l'élevage. Enfin, dans ses pourtours, en fait, c'est un vrai questionnement aujourd'hui agricole sur la pollution. On a des normes à respecter, hein, des kilos d'azote à l'hectare à ne pas dépasser, etc. Aujourd'hui, là, on a un projet dans le Maine-et-Loire là, qui est en train de se mettre en place, à Véry, là, près de Saumur, en fait, un élevage de 560 veaux en batterie. Donc, on peut parler de bien-être animal, mais on va aussi parler de la problématique de l'épandage, en fait, avec des communes qui disent, aujourd'hui, on peut pas recevoir autant d'effluents d'élevage que ça au risque de pollution. Des communes qui disent l'inverse, qui disent, il n'y a pas de problème, comme ça, on va pouvoir intensifier notre agriculture. Et en plus de ça, donc, on va avoir ces intensifications d'élevage, c'est une disparition, en fait, des petites fermes, des fermes familiales, des fermes qui permettent de nourrir, en fait, la population locale. Là, on concentre énormément, en fait, on fait de l'industrie, en fait, on fait de l'agro-industrie, simplement.
Et agrandir les élevages, ça veut aussi parfois dire entasser encore plus de bêtes dans des hangars clos. Ça pose aussi un vrai problème, on en parle un petit peu, d'éthique animale.
Eh bien, ça pose le problème du bien-être animal. Hein. Ça, c'est quelque chose qui nous touche, nous, à la Confédération Paysanne, mais qui touche... J'allais dire quasiment l'ensemble en fait des éleveurs, peu importe leur système. Aujourd'hui, la plupart des éleveurs qui sont sur des systèmes qui sont agro-industriels ou qui sont en passe de le devenir, le font par défaut parce qu'aujourd'hui, on leur dit que le revenu, il va passer que par là. Donc, c'est un mal-être des éleveurs et des éleveuses. C'est le mal-être des animaux qui sont élevés dedans. C'est une qualité alimentaire qui est issue de ces élevages qui n'est pas bonne pour le consommateur. Donc, on est dans un système hors sol qui est néfaste pour tout le monde.
Et d'ailleurs, ça peut aussi accroître la surmortalité des animaux d'élevage et donc finalement causer d'importantes pertes pour les éleveurs et presque ne pas leur faire gagner plus que ce qu'on leur vendait. Vendait dans le sens promettre.
Oui, tout à fait. En fait, on a le système... Je reprends l'exemple de l'élevage de veau là, qui est en projet vers Saumur. On est sur des systèmes complètement intégrés, donc c'est-à-dire que l'éleveur, en fait, il prend en charge le financement du bâtiment, il prend en charge les amortissements, tout le risque financier, et en fait, il est dépendant, en fait, des entreprises d'intégration qui vont amener les animaux, qui vont amener l'alimentation, qui vont obliger l'éleveur à faire tel ou tel système. S'il y a besoin de soigner les animaux, en fait, ils vont leur obliger de dire, vous utilisez telle ou telle molécule, vous faites comme ci, comme ça. L'éleveur, en fait, il est... il est, comment dirais-je, il est esclave des entreprises d'intégration. Et malgré tout, il faut qu'il rembourse tous les mois son bâtiment et ses heures. Bah, s'il y a des problèmes sur les veaux, il va passer des nuits entières à essayer de les soigner et il ne sera pas payé plus que ça.
Est-ce que ça a aussi un impact sur notre souveraineté alimentaire dans le sens où on risque de devoir importer pour pouvoir nourrir ces animaux qui sont de plus en plus nombreux ?
Alors la question de l'importation pour nourrir les animaux, elle est importante. Aujourd'hui, en fait, il faut savoir qu'en France, on importe beaucoup pour nourrir les animaux, et ça depuis longtemps. On a parlé du Mercosur, notamment, là, pour le coup, où l'ensemble de la population agricole a dénoncé, en fait, ces accords de libre-échange. Mais il faut savoir qu'on fait venir du soja en France depuis quand même plus de 50 ans, et qui nourrit quand même une bonne partie des animaux d'élevage, notamment des élevages hors sol. Et aussi des ruminants et des élevages un peu plus extensifs. Donc en fait, on est déjà dépendant de l'importation de ces produits-là. Et parallèlement, on vise aussi une agriculture, on en parlait tout à l'heure, qui va exporter du maïs, qu'on va exporter notamment pour de l'alimentation animale. Donc en fait, il y a une vraie déconnexion en fait de la localité de l'alimentation en fait.
On le disait en début d'émission, cette loi elle est censée répondre donc aux grandes difficultés du monde agricole. Et parmi les grands enjeux, on en parlait aussi, il y a celui de la rémunération. Mais là aussi, donc à la Confédération Paysanne, vous n'êtes pas satisfait, les réponses sont trop faibles. Qu'est-ce qui manque concrètement sur ce sujet ?
Eh ben en fait, ce qui manque, c'est une volonté politique. Là, on a... Enfin, l'État a essayé, mais... Voilà, il y a une forme de dialogue un peu de sourd et puis d'entente entre ce que j'appelle moi les oligarques agricoles, c'est-à-dire les représentants de syndicats majoritaires, ce qu'on appelle la cogestion, nous au sein de la Confédération paysanne, entre la FNSEA et l'État. En fait, on cherche pas à faire en sorte que les paysannes et paysans en fait soient rémunérés à la valeur de leur travail. Ce qu'on veut, c'est concentrer la richesse, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La répartition des aides, notamment européennes, se fait sur la majorité des aides européennes en fait revient à une petite partie en fait des producteurs agricoles. On déconcentre en fait. C'est vraiment dans l'intérêt de quelques-uns.
On l'a vu tout au long de cette interview, ce projet de loi semble ignorer les grands enjeux écologiques. Pourtant, cette question est centrale dans la préservation du monde paysan. Pourquoi est-ce que c'est encore difficile de mettre en place des mesures fortes, surtout dans un projet de loi qui est centré sur l'urgence agricole ?
Comment répondre à ça ? En fait, aujourd'hui... En fait, l'environnement, c'est notre outil de travail. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'agriculture, depuis quand même pas mal de temps, en fait, elle cherche à modifier l'environnement pour pouvoir produire ce qu'elle a décidé de produire, et non pas l'inverse, en fait. Par rapport à ça... le fait d'être déconnecté, en fait, on modifie l'environnement avec tout l'impact que ça va avoir, qui est très très complexe au niveau à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle mondiale. Et tant qu'on n'arrivera pas, en fait, à essayer de produire ce qu'on peut produire à un endroit en préservant la ressource et en remettant un peu dans le milieu aussi ce qui nous permet de produire, on n'y arrivera pas, quoi.
Et ces mesures d'urgence riment même ici avec abaissement des normes environnementales. Pourquoi est-ce que les récentes lois semblent à ce point opposer les enjeux écologiques et les enjeux du monde agricole ? Et surtout, pourquoi est-ce que ça semble à ce point admis par une partie du monde politique, du monde agricole, voire même de la société en général ?
Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que depuis tant de temps qu'on dénonce que différentes strates de la société, différentes structures professionnelles de la société appellent à faire attention à l'environnement, pour nos générations futures, et pourquoi est-ce qu'on n'y va pas ? C'est le problème du système capitaliste, en fait, où l'objectif, c'est vraiment d'accumuler de l'argent à certains endroits. Et voilà, je ne peux pas l'expliquer autrement. Aujourd'hui, quelle explication on a de pourquoi est-ce qu'on veut détruire notre environnement ? C'est une grande question.
Et pour terminer, un dernier mot, qu'est-ce que tu aimerais dire à tes collègues agriculteurs ou agricultrices qui, eux, soutiennent ce projet de loi ? Parce qu'il y en a aussi qui, et ils sont nombreux, qui le soutiennent.
Tout à fait. Je ne pense pas qu'ils soient si nombreux que ça à le soutenir réellement. Je pense qu'il faut faire la part des choses entre les quelques personnes qui sont en communication avec l'État, en fait, avec le ministère de l'Agriculture, pour ce projet de loi, et l'ensemble des agriculteurs et des agricultrices du territoire, en fait. Je ne pense pas qu'ils soient si nombreux. Aujourd'hui, si on leur dit, en fait, vous allez pouvoir préserver votre environnement, préserver votre milieu et produire correctement avec un travail qui est acceptable et plaisant. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sera contre, en fait.
Oui, il y a une vraie distinction quand même entre ce qu'on entend de la bouche du patron de la FNSEA et les agriculteurs et agricultrices qui sont syndiqués
à la FNSEA. Tout à fait. En fait, il y a une vraie incohérence, en fait. Et ce qu'on a vu derrière aux dernières élections professionnelles, c'est que la FNSEA, elle n'a jamais été aussi basse dans les votes et dans la représentation agricole. Aujourd'hui, on a vraiment un grand décalage entre les systèmes d'exploitation.
Merci beaucoup, Benoît Sénéchal, d'avoir été avec nous. Je rappelle, tu es éleveur et membre de la Confédération Paysanne. Bonne soirée.
Merci.
Au revoir. Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de Campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Étienne à la technique. La programmation continue sur le 103FM, alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.